France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
C'est une chose merveilleuse que l'effet produit sur Lassner par le mot guillotine. Ce sont trois syllabes qu'il ne peut entendre sans un mouvement de joie. Il l'appelle sa jolie fiancée, son amie, sa consolatrice.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Nous savons bien que dans l'histoire des nations, dans l'histoire des affrontements sociaux, des émotions collectives, des éclats littéraires, il advient souvent que tel ou tel procès atteigne brusquement un retentissement exceptionnel. Plusieurs facteurs y concourent, la personnalité de l'accusé, la nature des actes qui lui sont imputés, la réaction de l'opinion publique en face du personnage dans le prétoire et de l'arrêt qui le punit. Alors que la plupart des causes judiciaires s'enfouissent dans les pages jaunies des gazettes, d'autres restent ainsi flamboyantes dans les mémoires. Nous allons ce matin parler d'un criminel qui a atteint une notoriété hors de pair au début de la monarchie de Juillet et dont l'image n'a pas cessé depuis lors d'inspirer gens de lettres et cinéastes. Nous allons parler de Pierre-François Lassner. Il monta à l'échafaud pour être guillotiné un lundi matin, le 9 janvier 1836. Et on raconte qu'il se serait écrié « Eh bien, voilà une semaine qui commence mal ». L'anecdote portant cet humour, qu'elle soit avérée ou pas, suffit à inscrire cet homme à part dans le monde de la délinquance de son temps. Un homme qui, par la distance qu'il impose, tout à la fois fascine, scandalise et angoisse. Un homme qui s'affirme écrivain, poète et chansonnier, et qui fait de sa prison in extremis, tandis qu'il écrit ses mémoires, une sorte de salon mondain. J'accueille Anne-Emmanuelle de Martigny, qui a écrit un ouvrage où elle se saisit avec ardeur et sagacité de l'affaire Lassner. Professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste éminente de l'histoire des sensibilités dans la ligne de son maître, le grand Alain Corbin, elle éclaire les ressorts et les composantes de l'imaginaire social qui vient se saisir d'un épisode sans pareil, et un personnage qu'on désigne comme monstrueux du fait même de sa fascinante étrangeté. Et pour commencer, bien nous l'écoutons précisément dans un extrait des mémoires qu'il a rédigé en prison.
Au bout de quelques jours, je me trouvais au bout de mes pièces, sans ressources et sans savoir de quel côté me tourner. J'essayais de travailler pour quelques journaux, comme je l'avais fait quelques années auparavant. On avait bien reçu mes articles lorsque je n'avais exigé aucune rétribution. Il n'en fut pas de même de mes articles à payer. Voilà bien ce que j'avais prévu, me dis-je. Gare à toi. Quand tu n'auras plus rien, la société te repoussera de tous les côtés. Cela m'arrivait à la lettre. Enfin, j'en fus réduit au bout de quelques jours à être sur le point de mourir de faim. Dès ce moment, je devins voleur et assassin d'attention. Maintenant, vous qui voulez bien me connaître, écoutez-moi avec attention. C'est ici, à proprement parler, que commence mon duel avec la société, duel quelquefois interrompu par ma propre volonté et que la nécessité m'a forcé à reprendre en dernier lieu. Je me résolus à devenir le fléau de la société, mais seul je ne pouvais rien. Il me fallait des associés, où en prendre ? J'avais ignoré longtemps ce que c'était qu'un voleur de profession. Mais enfin, je venais de lire les mémoires de Vidocq. Je m'étais fait une idée de ce qu'était cette classe en continuel état d'hostilité contre la société. C'est là, me dis-je, où il faut aller chercher des bras qui puissent me seconder. C'est là seulement que j'en trouverai. J'établissais ainsi une ligne de séparation éternelle entre moi et le monde. Il ne s'agissait pour cela que de commettre un vol de peu d'importance qui ne put pas me faire condamner à une forte peine. J'eus bientôt trouvé mon affaire.
Anne-Emmanuelle de Martigny, bonjour.
Bonjour.
C'était une lecture d'Alain Rimoux dans l'émission de Marion Thibat, Une vie, une œuvre, sur France Culture, le 27 février 1992. Vous le retrouvez là, votre Lassner, avec lequel vous avez passé beaucoup de temps.
Ah, vous pouvez le dire, parce que j'ai commencé à travailler sur Lassner dans les années 1990. Et donc, j'ai publié ce livre pour la première fois en 2001. Ensuite, je l'ai repris pour le rééditer.
30 ans d'intimité,
en effet.
Alors, vous allez nous le restituer dans toute sa complexité.
J'espère.
Son étrangeté qui a tellement frappé les contemporains, et plus tard, le monde des lettres, jusqu'au cinéma.
Oui, quand vous parlez du cinéma, je pense que le film de Carnet, Les Enfants du Paradis, sur un scénario de Prévert, c'est vraiment un moment dans la construction du mythe qui est tout à fait essentiel.
1945.
Il est plus 1945, oui, et il est plus vrai que nature.
Est-ce qu'il est plus vrai que nature aussi, parmi l'œuvre des écrivains qui s'en sont saisis longtemps après sa mort en 1836? Je pense naturellement à Balzac, je pense à Stendhal.
Alors, Lassner apparaît, comme c'est un écrivain, évidemment, sa figure a été appropriée par les différents écrivains du siècle, mais il apparaît chez Balzac, il apparaît chez Hugo, mais ce sont des apparitions. Est-ce qu'il y a une œuvre inspirée de Lassner? En fait, il n'y a que La Mielle de Stendhal.
Qui est une œuvre inachevée.
Qui est un roman inachevé. Mais le personnage principal, le héros, Valbert, est taillé sur le modèle de Lassner. Et je dirais que tout au long du 19e siècle, chez les écrivains, c'est plutôt la légende noire de Lassner qui est véhiculée. Et il faut attendre plus tard, il faut attendre le 20e siècle pour que la figure devienne positive avec les surréalistes.
19e, c'est Hugo, c'est Balzac, c'est Théophile Gautier.
Théophile Gautier a consacré un poème à Lassner.
Le surréalisme, bien naturellement, vous en parlez. André Breton en a fait un personnage important.
Alors, les surréalistes adoraient Lassner, lisaient ses mémoires, et ils ont fait de Lassner, finalement, un précurseur du surréalisme, comme Baudelaire, comme Lautréamont.
On le trouve, en somme, réfracté dans les figures de l'assassin poète, de l'assassin romantique, du dandy du crime et même du fiancé de la guillotine.
Voilà, ce sont des images qui sont restées dans la mémoire et pour une bonne raison, parce que elles sont tout à fait, elles permettent de comprendre pourquoi Lassner a à ce point fasciné et stupéfié aussi. Parce que, comme vous le dites, l'assassin poète, ça va pas ensemble, un assassin et un poète. Quand on songe à...
Oxymore.
C'est l'oxymore. C'est l'oxymore. Quand on songe à ce que représentait la littérature dans cette période romantique, quand on pense à la figure éthérée du poète angélique égaré sur la terre, violent contraste.
Rappelez-nous, Anne-Emmanuelle de Martigny, rappelez-nous les circonstances de ce procès qui a tellement marqué les opinions. Il faut dire qu'il y a toute une littérature, tout un ensemble de journaux, même si on est un peu avant la grande presse populaire, les feuilles s'attachent beaucoup à ces moments spasmodiques.
Vous avez raison, c'est important de souligner qu'on est avant le fait divers. Ce qui rend d'autant plus intéressante, finalement, la construction de cette figure criminelle dans les conditions médiatiques du début de la monarchie de Juillet. C'est une presse d'opinion, C'est une presse politique, ce n'est pas encore la grande presse d'information qui va se saisir du crime et du récit de crime. Mais néanmoins, Lassner va intéresser les journalistes qui vont, pendant 2-3 mois, ne vont parler que de Lassner, hein, entre son procès qui se tient du 12 au 14 novembre 1835 à la cour d'assises de la Seine, et ensuite la fin de l'affaire, hein, l'exécution, le 9 janvier 1836. Donc on a là 3 mois qui sont suffisants pour que se construise la légende.
Qu'est-ce qui lui est reproché ?
C'est un grand criminel qui entre au palais de justice. Il a commis de nombreux crimes, et des crimes de nature assez différente, puisque Lassner, c'est un escroc, d'abord, c'est un voleur, et c'est aussi un assassin. C'est-à-dire que, en fait, il risque sa tête pour deux grosses affaires, un double assassinat qu'il a commis en décembre 1834 à Paris, passage du Cheval Rouge, sur Chardon, qui est un ancien camarade de prison, et sur la mère de Chardon à leur domicile. Ce double assassinat a été commis avec la complicité d'Avril. Et la seconde affaire, c'est une tentative d'assassinat que Lassner commet 15 jours après, c'est toujours à Paris, rue Montorgueil, sur un garçon de recette d'une banque parisienne, avec la complicité de François. Donc, un grand criminel, mais je dirais que contrairement à ce qui se passe dans la plupart des affaires judiciaires qui sont fameuses, Lassner, en fait, n'est pas devenu célèbre pour ses crimes. Ce qui a compté, surtout, c'est sa personnalité, c'est son attitude face au crime et au châtiment.
C'est le procès qui lui donne cette gloire ambivalente, ambiguë.
Le procès de Lassner s'ouvre en novembre 1835 et c'est la surprise totale. Pourquoi ? Parce que l'assassin n'a rien à voir avec la clientèle habituelle des cours d'assises, issue des classes populaires et sans instruction. Or, dans le box des accusés, se trouve un homme souriant, élégant, vêtu d'une belle redingote, qui est spirituel, qui est intelligent, qui est né dans une famille bourgeoise installée à Lyon. Il a écrit des poésies, il parle très bien. Fascinant, mais aussi déroutant et scandaleux. Pourquoi ? Parce que l'accusé affiche une complète indifférence à son sort. Il sourit, il lit le journal. Alors, indifférent, sauf quand il s'agit de s'acharner sur ses complices. Il détaille ses crimes par le menu, en fait, pour perdre Avril et François, qui l'ont dénoncé. Et donc, on voit bien qu'il n'exprime aucun remords. Hein, et de toute façon, lui, il n'a pas peur de la mort. Et même, il la réclame. Il fait un long discours, il improvise un long discours à la fin du procès, où il réclame la mort. Et il sera écouté, hein. Il va être condamné à mort.
Alors je vous ai fait entendre un extrait d'emblée, un extrait des mémoires qui permet de situer assez bien la philosophie, c'est peut-être un grand mot, en tout cas l'attitude, l'état d'esprit de ce personnage de Lassner dont nous parlons aujourd'hui, Anne-Emmanuelle de Martigny.
Le texte que nous avons entendu est un extrait des mémoires qui est un des plus importants, hein, où Lassner raconte comment il est devenu l'assassin systématique qu'il va prétendre être devenu et comment il est devenu un voleur et un assassin d'intention. Parce que Lassner, s'il a fait beaucoup parler de lui, c'est parce que il n'a pas seulement commis des crimes, mais il a fait quelque chose de ces crimes. Et en particulier, avec ces crimes, il a construit la figure d'un criminel tout à fait exceptionnel. Et un criminel qui, au fond, a choisi d'être cette figure effrayante, fascinante aussi, mais monstrueuse.
À la frontière de la bourgeoisie et des classes populaires, ce qui n'est pas indifférent.
Où situer finalement Lassner socialement ? Lassner, à la fois, c'est un bourgeois, parce que il est né dans une famille bourgeoise, il a été éduqué dans une famille bourgeoise, il a reçu l'instruction d'un bourgeois, il a été dans plusieurs établissements secondaires de la région lyonnaise, il est même allé chez les jésuites, donc voilà, il a reçu une instruction conforme à sa classe.
Son père était un soyeux, alors son moyenne père, bourgeoisie.
Son père était un négociant qui s'était enrichi dans le commerce des fers, et puis qui, vieillissant, avait pris sa retraite. Mais ensuite, il a eu une tripotée d'enfants. Et donc, il a dû se remettre aux affaires dans la fabrique lyonnaise, mais sans doute manquait-il évidemment d'expérience. Et du coup, ses affaires, au bout d'un moment, ont périclité. Et ça explique beaucoup hein, l'itinéraire, je dirais, social et moral de Lassner. Donc j'ai dit c'est un bourgeois, mais pas tout à fait. Hein. C'est déclassé. Un bourgeois déclassé. Et là, le déclassement est tout à fait central dans son sort.
Il a expliqué toujours que il y a eu, de la part de sa mère, une absence d'amour, un désamour par rapport à d'autres enfants, et que cela a été décisif pour forger ses frustrations, sa détermination, sa philosophie et sa vision de la société, en somme.
Dans ses mémoires, Lassner met l'accent sur la question de la sensibilité. Il se montre comme un fils de Rousseau. Hein, je suis né avec un cœur doux, sensible. Et le texte des mémoires, c'est aussi comment Lassner, dit-il, enfin explique avoir voulu tuer sa sensibilité. Dans les mémoires, il désigne des responsables de son parcours. Et première responsable, c'est sa mère, qui, dit-il, ne l'a pas aimé et lui a préféré son frère. Au fond, ce qui est central dans la biographie de Lassner, c'est l'expérience de l'injustice vécue au sein de la famille, au départ. Et ensuite, cette expérience de l'injustice, Lassner, monte en généralité, on accuse la société. Lassner dit « J'ai déclaré la guerre à une société injuste ».
Eh bien justement, écoutez ce second extrait des mémoires qu'il a rédigé en prison entre sa condamnation et son exécution. C'est une lecture du grand Michel Bouquet dans l'émission « 200 minutes pour comprendre » de Françoise Malétra sur France Culture le 11 juillet 1974.
Je devins homme, mais pour moi seul, à l'âge de 8 ans. Dès lors, l'éducation ne put rien faire sur moi. Ce fut moi qui fis mon éducation morale. C'est moi qui me suis fait ce que je suis aujourd'hui. Cessez donc, ô moralistes, d'accuser la philosophie du XVIIIe siècle de ce que vous appelez ma démoralisation. Apprenez que lorsque je lus pour la première fois Helvétius, Diderot, Volney et Rousseau, il me sembla que je les lisais pour la seconde fois, ou du moins que je retrouvais chez eux une partie de mes idées. Et j'avais alors 12 ans.
Lassner se regarde être Lassner.
Cette fureur d'observation naquit en moi, dès que je m'aperçus que je ne pouvais pas espérer de bonheur au sein de ma famille et dans mon entourage. Ne voyant alors personne de mon âge avec qui je pusse sympathiser, et forcé de me concentrer en moi-même et d'y chercher mes jouissances, je m'en créai une dans l'observation de tout ce qui m'entourait. Avec quelle persévérance je m'attachai à la connaissance du caractère des personnes qui fréquentaient la maison, avec quelle délice, au bout d'un certain temps, je reconnaissais la justesse de mes remarques. J'ai la prétention de croire que peu d'hommes sont arrivés à une connaissance aussi profonde en ce genre. Je me suis bien rarement trompé dans mes appréciations. en ai-je été plus heureux. Qui me dira ce que c'est que la mort? Qu'est-ce vertu? Qu'est-ce philosophie? C'est de savoir s'accommoder au sort. Science, honneur, illusion, mensonge. L'or, un sépulcre où pourrit notre cœur. L'amitié même, hélas, n'est qu'un vain songe. Ce n'est qu'en soi qu'on trouve le bonheur.
Ce n'est qu'en soi qu'on trouve le bonheur. Un Emmanuel de Martigny, a-t-il vraiment trouvé le bonheur? On ne le sait pas, mais en tout cas, il a cette passion d'affirmer qu'il s'est fait lui-même et qu'il s'est défini lui-même dans cet environnement hostile.
Et c'est très intéressant, puisque finalement, il y a la construction d'un monstre dans un dialogue entre le criminel et la société. La société de l'époque, de la monarchie de Juillet, a vu en Lassner un monstre, mais lui-même, d'une certaine manière, hein, se revendique comme monstre, en expliquant que finalement, les mémoires de ce point de vue-là sont assez frappants, parce que il revendique le fait de s'être fabriqué en monstre, tout en récusant la figure caricaturale que ses contemporains ont construit.
Vous êtes beaucoup intéressé à la figure du monstre qui paraît à ce moment-là et qui frappe déjà les contemporains. Je relève dans votre livre cet extrait d'un commentaire à propos du procès de Lassner. Chez un homme inculte et grossier, les plus grands excès se conçoivent et s'expliquent facilement. Mais lorsqu'il s'agit, comme dans la cause, d'une belle nature cultivée par l'éducation, faite pour des mœurs douces et paisibles et dont le seul penchant est l'amour des lettres, ou alors le moraliste recule, effrayé, et recherche en tremblant les causes d'un si épouvantable phénomène. Voilà sur quoi on s'est interrogé beaucoup autour de Lassner.
Et oui, parce que, en fait, cette figure de monstre, elle cristallise autour du paradoxe, hein, qui associe le profil d'un grand assassin avec des talents brillants, des chances sociales remarquables, ses origines bourgeoises, le fait que Lassner soit instruit et qu'il soit poète. Donc en fait, cet assassin-là, c'est l'antithèse incarnée. Hein, d'où finalement toutes ces représentations de Lassner comme alliance contre nature. Hein, c'est à la fois l'infamie et le génie, c'est l'assassin poète, c'est le criminel philosophe, hein, et c'est aussi le Don Juan de l'assassinat. Hein. Donc ce sont des figures comme ça antithétiques qui font finalement de Lassner une sorte de monstre hybride, hein, partagé entre animalité et humanité. C'est le meilleur et c'est le pire. Donc finalement, je dirais, Lassner, c'est un scandale intellectuel. Comment comprendre qu'un homme tel que lui soit possible? Comment comprendre qu'un assassin couvert de crimes puisse disserter sur la mort comme un sage? Hein, comment c'est possible que Lassner rappelle Caton, rappelle Sénèque, rappelle Socrate?
C'était assez rare dans le prétoire de l'époque.
Oui, c'était assez rare dans le prétoire de l'époque.
Il faut aussi faire justice au fait qu'on est dans une société qui est marquée de plus en plus par une sorte d'effroi devant le crime. C'est un aspect que vous mettez bien en lumière dans vos travaux, Anne-Emmanuel de Martigny, l'irruption d'une angoisse plus forte dans cette société bourgeoise en face des criminels.
Oui, le crime s'est installé au cœur des obsessions collectives au XIXe siècle, et on le voit dès les années 1820-1830, et là nous sommes au début des années 1830, et Lassner a contribué bien sûr, à la peur du crime et aussi au façonnement de tout un système de représentation sur le crime comme un monde parallèle et, je dirais aussi, comme un monde inversé, puisque Lassner, finalement, c'est un peu l'image du barbare de la civilisation, c'est-à-dire celui qui a offert à la société bourgeoise, eh bien, finalement, un miroir. Et c'est un monstre bourgeois, et Lassner est un monstre bourgeois aussi par le fait que ses crimes, finalement, il les présentait comme un métier. Le crime, c'était une profession. Et donc, au fond, il incarne la figure du criminel urbain, le criminel pervers, le criminel froid. Alors que, bon, l'assassin des campagnes, il est brave au fond. Hein, il tue dans un accès de sauvagerie ou de passion. Mais Lassner, c'est celui qui a prémédité, c'est l'assassin sans cœur, c'est le crime pour gagner l'argent, le crime pour lequel on recrute des complices. C'est l'image de cette contre-société du crime.
On n'est pas loin de l'atmosphère des romans feuilletons qui vont fleurir, avec Eugène Sue notamment, ou Ponson du Terrail, dans les décennies qui suivront.
Voilà, donc on est juste un petit peu avant les mystères du crime. On est quelques années avant les mystères de Paris, d'Eugène Sue. Mais Lassner, en effet, nous permet d'entrer hein, dans ce monde du crime qui a tant fait frissonner les lecteurs de la Monarchie de Juillet.
Et vendre du papier sous le Second Empire. Nous avions consacré une émission à Eugène Sue, une émission qui est en ligne, naturellement. Anne-Emmanuel de Martigny, c'est le moment où on s'intéresse beaucoup à un certain nombre de crimes majeurs, on pense, mais qui ont une autre nature. Pierre Rivière, par exemple, auquel Michel Foucault a consacré beaucoup d'attention.
Pierre Rivière, en effet, c'est au même moment.
Hein, pourquoi je le cite.
Le crime de Pierre Rivière. Pierre Rivière, donc, tue sa mère, son frère, sa sœur. C'est un crime terrible qui a fait beaucoup parler Michel Foucault, mais très peu les contemporains. Hein, alors que Lassner, c'est l'inverse. Michel Foucault n'aime pas tellement Lassner. En revanche, Lassner a fait beaucoup parler de lui et a absolument fasciné hein, ses contemporains, ce qui n'est pas le cas de Pierre Rivière. Et là, on voit, justement, c'est très intéressant de comparer les deux, parce que le crime de Pierre Rivière est absolument monstrueux. Et à côté de lui, bah, les crimes de Lassner sont assez banals, en fait. Hein. Mais cette figure de monstre qui se construit autour de Lassner, c'est autour d'une personnalité exceptionnelle, c'est autour d'un comportement complètement inattendu.
C'est un poète, nous le disions, c'est un écrivain qui se révèle, c'est aussi un chansonnier. Pour faire entendre sa voix autrement que par le truchement des mémoires, je vous propose d'entendre cette pétition d'un voleur à un roi, son voisin, qui est interprétée ici par Catherine Sauvage, 1972. On y trouve assez bien reflété, est-ce votre sentiment aussi, les formes de son talent?
C'est une chanson politique qui est très réussie. Toutes les productions poétiques de Lassner ne sont pas toutes réussies, mais celle-là l'est.
Bon, eh bien, vous allez l'entendre. C'est une interprétation de Catherine Sauvage en 1972.
Sire de grâce, écoutez-moi, je viens de sortir des galères, je suis voleur, vous êtes roi, agissons tous deux en bons frères. Les gens de bien me font horreur, j'ai le cœur dur et l'âme vile, je suis sans pitié, sans honneur. Ah, faites-moi sergent de ville. Bon, je me vois déjà sergent, c'est une maigre récompense. L'appétit me vient en mangeant, allons sire, un peu d'indulgence. Je suis hargneux comme un roquet, d'un vieux singe j'ai la malice. En France, je voudrais gisquer, faites-moi préfet de police. Je suis, j'espère, un bon préfet, toute prison est trop petite. Ce métier pourtant n'est pas fait, je le sens bien pour mon mérite. Je sais dévorer un budget, je sais embrouiller un registre, je signerai votre sujet. Ah, sire, faites-moi ministre. Sire, oserais-je réclamer, mais je vais vous mettre en colère. Le vœu que je vais exprimer pourrait bien, ma foi, vous déplaire. Je suis fourbe, bavard, méchant, ladre, impitoyable, rapace. J'ai fait se pendre mon parent, sire. Donnez-moi votre place.
Est-ce là du cynisme, du réalisme, de l'ironie Anne-Emmanuel de Martini.
La chanson est fondée sur la comparaison entre le roi Louis-Philippe et le voleur. C'est une chanson républicaine. Lassner a écrit des chansons politiques, des chansons républicaines. Et justement, il y a eu une micro-affaire au sein de l'affaire Lassner, une micro-affaire autour de cette chanson, parce que Lassner a accusé le républicain et poète Altaroche de lui avoir piqué sa chanson. Et cette affaire a été divulguée juste avant le procès. Et donc, finalement, cette affaire a constitué une sorte de préface intéressante au procès de Lassner, parce que qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert que l'assassin qu'on allait bientôt juger, en fait, était un poète, et au lieu de préparer sa défense à un procès où il risquait quand même sa tête, eh bien, en fait, il s'occupait de rimer une réclamation pour accuser Altaroche d'avoir plagié son texte.
Dénoncer une sorte de plagiat, ou en tout cas de voleur de son texte.
C'est intéressant parce que ça montre que Lassner, voilà, se revendiquait auteur et avait un geste d'auteur, revendiquer la paternité de cette chanson. Et manifestement, c'était plus important pour lui que d'être préoccupé de sa défense.
On voit l'influence de Béranger assez clairement.
On voit l'influence de Béranger. Et c'est aussi parce que Lassner, Lassner écrivait des textes dans le goût du temps, hein, et il a écrit des chansons dans le style de Béranger. Eh bien, il a fasciné son public. Il allait chercher son public dans les goûts de son public.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Anne-Emmanuel de Martini, vous disiez que c'était un monstre moral, c'est aussi aux yeux des contemporains un monstre politique, qui est considéré de façon évidemment très différente suivant les partis, suivant les familles de pensée de la France de ce début de la monarchie de Juillet.
Oui, il y a une politisation du personnage qui a priori peut étonner. Hein. Il faut avoir en tête les conditions particulières de la presse à l'automne 1835, puisque on est après l'attentat de Fieschi contre le roi, et donc retour de la censure. Et dans une presse qui doit faire attention à ne pas attaquer le régime, politiser une affaire criminelle, ça permet de tenir un discours politique. Donc l'affaire n'est pas directement politique, mais elle a été exploitée par les opposants au régime de Juillet et exploitée aussi d'ailleurs par la presse qui défendait le régime. Donc chaque famille politique finalement a eu sa lecture du criminel, parce que l'idée c'était de chercher des responsables. Qui est responsable de Lassner ? C'est pour ça qu'il y a eu tout un débat pendant ces deux mois dans la presse pour comprendre comment un monstre comme lui était possible. Et donc, je dirais un premier type de réponse, hein, c'est sur le champ politique.
Les légitimistes, ceux qui regrettent le règne de Charles X qui vient d'être renversé dans les journées de juillet de 1830.
Pour eux, le responsable de Lassner, c'est Voltaire et Rousseau. Hein. C'est la philosophie du XVIIIe siècle, c'est l'athéisme, c'est le matérialisme. Et donc on est dans une société démoralisée. Pas étonnant qu'un homme comme Lassner puisse venir effrayer ses contemporains. C'est la philosophie du XVIIIe, c'est Voltaire et Rousseau. Et Lassner tenait des propos philosophiques. Il faisait profession de matérialisme, qui est une philosophie absolument honnie, parce que le matérialisme affirme le primat de la matière sur la pensée. Donc comment fonder une morale sur ce principe-là.
Pour les légitimistes, l'athéisme est constitutif de la monstruosité politique de Lassner.
Pour les légitimistes, et je dirais en fait pour tout le monde. Hein, l'athéisme, on est au cœur du premier 19e siècle, c'est considéré comme une monstruosité totale. Au moment de l'affaire Lassner, il y a un livre qui sort sur l'athée d'une certaine Sophie Panier, et le journaliste qui en rend compte dans la presse, qui rend compte de cette parution, dit mais en fait, c'est un non-sujet, parce que l'athée n'existe pas. Ou alors, s'il existe, c'est un enfant à deux têtes. Donc voilà, l'athée, c'est un monstre.
Du côté des républicains, est-ce qu'on est gêné par les critiques des légitimistes? Comment regarde-t-on cette affaire Lassner?
Alors, pour les républicains, les responsables de Lassner, c'est le régime de la monarchie de Juillet, parce que voilà, la révolution de 1830 a été volée par les orléanistes aux républicains. Mais les républicains, ils sont très très gênés dans cette affaire. Hein. Pourquoi? Parce que Lassner a eu des relations avec certains républicains, parce que Lassner voulait faire carrière dans les lettres et a essayé de devenir journaliste, puisque être écrivain et journaliste, c'est à peu près la même chose au XIXe siècle. Il a eu des rapports compliqués avec les républicains. On l'a vu avec Altaroche, puisqu'il a accusé Altaroche de lui avoir volé sa chanson. Et il a essayé aussi de publier des articles dans la presse, républicaine. Et ces articles ont été peu ou pas payés. Donc en fait, Lassner n'aime pas les républicains. C'est pas parce qu'il a écrit des chansons républicaines qu'il était républicain. Les journaux qui défendent la monarchie de Juillet, eh bien, présentent Lassner comme un opposant républicain. C'est du pain béni, je dirais, pour eux, cette affaire Lassner, parce que c'est le moment où les orléanistes opèrent un virage conservateur, un virage antilibéral, et on est après l'attentat de Fieschi contre le roi. C'est le moment où le pouvoir orléaniste veut se débarrasser des républicains. Il y a eu aussi le contexte des insurrections de 32 et de 34. Et donc, à ce moment-là, l'affaire Lassner va être exploitée par les journaux orléanistes contre le parti républicain, avec l'idée que, décidément, la République, c'est le crime. Hein. Les républicains sont des assassins. Et évidemment, ça renvoie à l'attentat de Fieschi tout près. Donc finalement, ce qui est intéressant dans cette politisation du personnage, c'est que elle relie Lassner à tout un imaginaire de la monstruosité politique. Et on le voit très bien sur cette association République et crime. L'idée, c'est quoi? C'est imaginer un homme comme Lassner dans une révolution. Qu'est-ce que ça produirait? Eh bien, évidemment, ça produirait la terreur. Hein, et il y a une comparaison qui est développée entre Lassner et Marat qui est l'archétype du monstre révolutionnaire.
Et Sade aussi.
Sade aussi, pour plusieurs raisons. Pour le matérialisme. Les libertins de Sade commettaient les pires horreurs avec des justifications philosophiques et matérialistes dans leur bouche. Et Lassner, ben c'est ça, c'est le crime justifié. C'est le crime qui s'appuie sur la philosophie pour être légitimé. Lassner est apparu comme un monstre moral parce que il mettait au service du crime ses talents, son instruction, son éloquence, et tout ça lui a permis de justifier ses crimes et de tenir un discours sur ses crimes. Et il expliquait finalement avoir construit un système de l'assassinat. C'est-à-dire que ce système partait de convictions philosophiques, matérialistes et athées, et ça c'était la théorie, et ensuite, eh bien on allait jusqu'à la pratique. La pratique, c'est le crime et l'assassinat. Il se présentait comme un assassin logique, systématique et logique. Et évidemment, c'était tout à fait effrayant que ce crime appuyait sur des justifications philosophiques. La comparaison avec Sade, c'est aussi évidemment les mémoires. C'est le crime écrit. l'idée que non seulement Lassner a tué, mais ses ravages vont continuer par-delà la mort, parce qu'il va y avoir ce texte homicide, hein, ces mémoires posthumes qui continueront à faire connaître hein, la pensée criminelle de Lassner.
Dans les deux cas, œuvre de prison, Sade et Lassner.
Et c'est encore, en effet, un point de comparaison important. Finalement, Lassner a été emprisonné pendant 2 mois avant son exécution. Et dans ces 2 mois, un poète est né.
Eh bien, écoutez le poète, écoutez ce dernier chant de Lassner qui remonte au 28 novembre 1835 et dit ici par Gauti Pharaoun dans l'émission d'André Velter de France Culture le 24 juillet 1995. L'émission s'intitulait « Poésie sur parole ». Ce texte me paraît assez bien ramasser les considérations que vous venez de nous proposer, Anne-Emmanuelle de Martigny.
En expirant, le cygne chante encore. Laissez-moi chanter mon chant de mort. Moi qui, sans agonie, vais vous quitter dans peu d'instants, qui ne regrette de la vie que quelques jours de mon printemps et quelques baisers d'une amie qui m'ont charmé jusqu'à 20 ans. Salut à toi, ma belle fiancée, qui dans tes bras va m'enlacer bientôt. À toi, ma dernière pensée, je fus à toi dès le berceau. Salut, ô guillotine, expiation sublime, dernier article de la loi qui soustrait l'homme à l'homme et le rend pur de crime dans le sein du néant, mon espoir et ma foi. Je vais mourir. Sur moi vois-je s'étendre une ombre qui présage une horrible nuit. Non. Mon âme est calme et sans murmure, mon cœur sans crainte et sans effroi comme une vierge chaste et pure. Vertu, tu n'es qu'un mot, car partout sur la terre ainsi que Dieu, je t'ai cherché en vain. Vertu, paraissez, montrez-moi la lumière. Mais c'est en son nom qu'on maudit, qu'on torture celui qui l'a conçu plus sublime et plus grand. La vertu, n'est-ce pas une longue imposture qui dérobe le riche au fer de l'indigent? On n'en demande pas l'opulence altière, on en dispense le pouvoir, le pauvre seul est tenu d'en avoir. Pauvre, à toi la vertu, pauvre, à toi la misère, à nous le vice et la vie à plein verre. Vous, mourrez sans vous plaindre. Est-ce pas votre sort? Que voulez-vous de moi? Vous parlez d'échafaud. Mais voici, j'ai vécu. J'attendais le bourreau.
Le bourreau comme victoire, en somme, incarnant une victoire de l'homme qui parle, du poète, contre une société dont, clairement, il dit qu'il voudrait la déconfiture.
Cette poésie, elle est magnifique. C'est sur elle que repose la figure du fiancé de la guillotine. C'est une poésie romantique. Lassner a écrit des poésies philosophiques, il a écrit des poésies satiriques, il a écrit des poésies classiques. Et là, on est dans une poésie romantique, poésie de la mort, poésie de l'échafaud. Et aussi, on voit bien comment l'assassin poète, c'est aussi le poète de l'assassinat. C'est-à-dire que le poète de l'assassinat, c'est celui qui chante la guerre contre la société, qui chante le néant, hein, dans le sein du néant, mon espoir et ma foi. C'est un poème qui a été, qui a paru censuré. En fait, on a vu dans ce texte une forme de poésie du mal. De même que Lassner, c'est la théorie et la pratique, eh bien, c'est aussi le sang et l'encre. C'est celui qui met sa plume hein, au service du crime.
C'est bientôt que paraîtront les fleurs du mal de Baudelaire, qui lui-même a évoqué Lassner.
D'où la lecture par les surréalistes de Lassner comme Baudelaire, finalement précurseur du surréalisme. Est-ce qu'il y a véritablement une poésie du mal chez Lassner? Ce n'est pas sûr. Est-ce que il y a, comme chez Baudelaire, le désir d'extraire la beauté du mal? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse aller aussi loin. Mais en tout cas, les contemporains ont vu en lui la poétisation du crime.
Anne-Emmanuelle de Martigny, il faut dire un mot de la fin, c'est-à-dire du supplice. Est-ce que cela signifie aux yeux des contemporains?
On est dans un temps d'une pénalité de l'intimidation, une pénalité qui recherche l'exemplarité, une pénalité aussi de l'exclusion. Et donc voilà, le duel de Lassner avec la société, c'est sur l'échafaud qu'il va se clore. Les exécutions sont publiques. Et donc, Lassner, finalement, a donné rendez-vous à la barrière Saint-Jacques. La question, c'était, est-ce que Lassner va tenir son pari jusqu'au bout? Est-ce que ce condamné à mort, calme, sans remords, sans espoir dans l'au-delà...
Presque joyeux,
comme un sage, finalement, eh bien, est-ce qu'il va pouvoir continuer ce rôle jusqu'au bout? Et qu'est-ce qui se passe? On va pas le savoir tout de suite, parce que au lendemain de son exécution, vont paraître dans la presse des comptes rendus qui sont contradictoires. Et en gros, il y a deux versions. Il y a une version où Lassner meurt en tremblant sur les marches de l'échafaud, et une version où il meurt fidèle à lui-même.
Et c'est pourquoi on lui prête le mot que j'évoquais, peut-être inventé tout à l'heure. Lundi, voilà une semaine qui commence mal.
Ça va tout à fait dans le sens de ce que finalement on sait avoir été la mort de Lassner. C'est-à-dire que très vite, on va comprendre ce qui s'est passé. En gros, la Gazette des Tribunaux, qui était le journal qui faisait référence en matière judiciaire, a publié un récit mensonger de la mort de Lassner. Alors, peut-être après intervention du garde des Sceaux, c'est ce que dit Fouquier qui a publié plus tard des grandes causes célèbres. Est-ce que c'est parce que le journaliste n'a pas pu approcher et n'a pas bien vu la scène, et donc à la préfecture de police, on lui aurait donné cette version-là? Ça, c'est la version de l'inspecteur Canler. Toujours est-il qu'il y a eu un mensonge officiel. Pourquoi? Ben parce que Lassner était mort fidèle à lui-même, et donc le dénouement de cette affaire n'était pas très édifiant. Donc il a fallu masquer ce criminel qui mourait avec la sagesse et le stoïcisme de la vertu. Ça, c'est, je cite de mémoire, c'est la phrase du bourreau Samson.
Alors, vu d'en face, précisément, le romantisme est responsable des crimes de Lassner. Vu du côté de Jules Janin, de tous les critiques qui détestent le mouvement nouveau.
Il fallait trouver des responsables. Et le romantisme a été un des principaux responsables de Lassner dans la presse. L'affaire Lassner est devenue finalement, s'est transformée en procès du romantisme. Pourquoi? Parce que le romantisme était accusé d'être une littérature immorale. Pourquoi? Ben, elle avait exalté la figure du révolté.
Et de l'individu.
On trouve chez Lassner les figures de la singularité romantique, c'est-à-dire le criminel, c'est-à-dire le poète, et c'est aussi le dandy, la figure du dandy du crime en redingote, le don Juan de l'assassinat. Et finalement, le public de Lassner, il avait en tête des modèles de héros littéraires.
On parle du grand danditisme. C'est un jeu de mots, un mot valise qui exprime bien ce que vous dites.
Le dandy, mais je dirais surtout le héros satanique, le héros fatal. à la Byron, à la Schiller. Voilà, l'idée que Lassner aurait copié les modèles romantiques. Il aurait joué au héros fatal.
Y compris le salon, puisque dans les dernières semaines, en prison, il a accueilli toutes les curiosités des dames anglaises qui venaient le voir. C'était très chic.
Alors, il a reçu, en effet, dans sa prison, de nombreux visiteurs. Il y a eu en particulier Jacques Arago, donc qui était écrivain et qui finalement a abusé de la confiance de Lassner, hein, puisqu'il a publié après la mort de Lassner un livre, un recueil de ses entretiens avec Lassner à la conciergerie.
Les mémoires aussi ont été caviardées. Est-ce qu'on les a aujourd'hui dans leur intégralité, est-ce qu'ils sont accessibles ?
On n'a pas les mémoires accessibles dans leur intégralité, mais il y a une excellente édition des mémoires faite par Jacques Simonelli, qui a retrouvé des fragments du manuscrit, et donc il a pu restituer les passages qui avaient été enlevés par les censeurs.
Alors pour clore notre conversation sur votre Lassner, Anne-Emmanuel de Martini, un mot sur le cinéma au XXe siècle. Il y a eu un film biopique, comme on dit aujourd'hui, une biographie par Francis Giraud, mais beaucoup plus important sont les Enfants du Paradis de Prévert et Carnet, dont vous nous avez déjà dit un mot, et qui viennent donner à Lassner, Pierre-François Lassner, sous les yeux de Garance, Arletty. Lassner est joué par Marcel Herrand, tout ça est magnifique, viennent leur donner un lustre inédit. C'est le moment où Garance dit à Pierre-François, qui incarne en somme le destin dans cette pièce, il lui dit « Vous avez la tête trop chaude, Pierre-François, et le cœur trop froid, je crains les courants d'air, je tiens à ma santé, à ma gaieté. » Formule fameuse, parmi toutes les fameuses répliques du cinéma français.
Oui, Lassner dans Les Enfants du Paradis, finalement, avec Garance a trouvé son maître. Hein, parce que l'ironie de Garance tient le personnage de Lassner à distance. Il y a des dialogues qui sont tout à fait inoubliables. Et puis aussi, l'interprétation de Marcel Herrand est tout à fait remarquable. Et on a évidemment dans la mémoire ce Pierre-François au regard cruel, qui est une sorte de pur concentré d'orgueil, de misanthropie et de mépris. Ce que je trouve très fort dans ce film, c'est que, bon, c'est pas un film sur le crime, hein. C'est un film sur le boulevard du crime. Donc c'est un film sur le théâtre, c'est un film sur l'illusion, le rapport entre la vérité et la réalité. Et du coup, je trouve que le film touche juste sur le personnage de Lassner parce que il met l'accent sur la représentation. La représentation qui est évidemment la problématique centrale des Enfants du Paradis, mais qui est aussi la problématique centrale de Lassner, puisque Lassner, c'est un criminel qui s'est mis en scène, en fait, qui s'est construit comme personnage. C'est un criminel en représentation, hein, et dans Les Enfants du Paradis, en représentation sur le grand théâtre de la vie, hein.
Eh bien, merci beaucoup. Votre ouvrage essentiel, Anne-Emmanuel de Martini, sur lequel nous avons fondé notre conversation, s'intitule « L'affaire Lassner », publié pour la première fois chez Aubier en 2001 et réédité par les éditions du CNRS tout récemment. « Portrait d'un criminel en monstre », votre sous-titre, il résume bien votre regard sur lui.
Tout à fait. Ce que je trouve le plus intéressant chez Lassner, c'est évidemment cette rencontre entre un criminel et une société. De cette rencontre est sortie cette figure de monstre.
Vous avez publié précédemment chez Créafis en 2008 avec Anna Cayozo un livre consacré au monstre précisément et à l'imaginaire social. Chez vous, effectivement, la continuité d'une curiosité, d'une séduction peut-être.
C'est très intéressant, le monstre, parce que le monstre, souvent on y croit, Mais en fait, le monstre, c'est une construction. Et donc, c'est une affaire de représentation. Donc, c'est un magnifique objet pour l'histoire culturelle.
Violette Nozière, à laquelle vous avez également consacré un ouvrage précieux. Violette Nozière, La fleur du mal, une histoire des années 30, parue chez Champvallon en 2017. C'était une empoisonneuse. Et voilà encore un procès dont vous avez tiré des réflexions précieuses sur un moment d'une sensibilité collective.
Oui, au fond, finalement, c'est une manière de faire de l'histoire. Moi, ce que j'aime, c'est prendre comme ça une petite affaire et voir tout ce que ça dit de l'époque, les peurs qui s'expriment, les anxiétés, les conflits qui se reflètent dans les discours sur une affaire judiciaire.
Vous venez de diriger avec Julie Doyon et Léonore Lequen un ouvrage consacré à l'inceste. Dire, entendre et juger, l'inceste du Moyen-Âge à nos jours. Un ouvrage qui vient de paraître au Seuil en 2024. Et puis, j'ai cité le nom d'Alain Corbin, qui est votre maître, n'est-ce pas? Parmi un très grand nombre d'ouvrages essentiels, qui a ouvert le champ neuf de l'histoire des sensibilités, je signale sa dernière parution, c'est une réédition, Histoire du silence, de la Renaissance à nos jours, chez Flammarion, collection Champs, en 2024. Et puis, vous avez porté à sa haute personnalité le tribut de votre admiration, également dans un livre qui s'appelle Alain Corbin, écrivain de l'histoire, dans la collection Champs, là encore, 2024. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références et documents que nous avons utilisés et vous pourrez, vous le savez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, écouter, réécouter et podcaster cette émission.
À 16 heures pleines dans la rue, il traînait l'air indifférent, assassin 16 heures perdues. Il fallait bien tuer le temps. Une fleur à la boutonnière, alors que l'échafaud l'attend, il garde ses bonnes manières et lâche la vie avec des gants. Il suivait seul son chemin et n'était aimé de personne. Trouvait la vie trop monotone pour mettre de l'eau dans son vin. Passant ses nuits au rouge-gorge, il préparait 1000 larcins, on réalisa quelques-uns pour que sa légende se forge. À la foule au goût sanguinaire, venu voir sa tête tomber, il dit: mes semblables, mes frères, le numéro est terminé. Et c'est un curieux destin qui finit en place de grève. Tandis que le jour se lève, il garde son sourire en coin. Ce fut un lundi au matin, après un dernier mot d'esprit, qu'il fit ses adieux à la vie dans un éclat de rire hautain.
Et tandis que vous entendez en arrière-fond une chanson de David Aaron Brunetière, une chanson de 2012 qui s'appelle Lassner, j'ai le plaisir de vous rappeler que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, qui a été préparée par Jeanne Guéroux et par Vincent Abouchard, notre réalisateur. La collaboration de l'un et l'autre étant pour moi de semaine en semaine sans prix, avec également Hervé Dubreuil à la prise de son, Keating Wang à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Priez pour que Dieu lui pardonne et que le diable en prenne soin. Et que le diable en prenne soin. Et que le diable en prenne soin.